Interception.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver dorénavant à notre horaire habituel du dimanche matin après la parenthèse estivale. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est lourd d'émotions. Imaginez une victime qui, des mois ou des années plus tard, communique avec son agresseur ou bien encore la famille d'une personne assassinée qui rencontre le meurtrier. C'est ce que l'on appelle en Belgique la médiation en matière pénale, différente de la médiation pénale française. Car en France, cette médiation ne concerne que les délits mineurs et son but est de désengorger les tribunaux en évitant le procès. En Belgique, la médiation en matière pénale va bien plus loin. Elle s'adresse aux victimes et auteurs de délits ou de crimes, parfois très violents. Elle n'évite pas le procès, elle se fait parallèlement à la procédure judiciaire. La médiation s'inscrit dans un courant, une philosophie largement développée dans une majorité de pays anglo-saxons, mais peu connue du grand public en France, la justice restauratrice, qui accorde une plus grande place à la victime, en partant du principe qu'elle peut obtenir une sorte de réparation morale. Afin de mieux comprendre l'intérêt de la démarche pour chacune des parties, Claire Chaudière s'est rendue en Belgique. Elle a rencontré des victimes, des médiateurs, des auteurs. Voici son reportage, Victime-agresseur, l'étonnant dialogue.
Interception, le magazine de la rédaction.
Vous auriez imaginé un jour vous retrouver face à face avec l'un des assassins de votre père ?
Non. Non, j'aurais jamais cru. Quand il est rentré dans la pièce que j'étais là, il ne savait pas. Il était blanc et il ne savait pas comment, s'il devait me dire bonjour ou bien s'il devait baisser la tête.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il vous a dit bonjour ? Il a baissé la tête ?
Non, il est rentré, il a fait bonjour. Bon, j'ai dit bonjour, c'est tout. Et il m'a raconté tout en détail. Bon, ils étaient à deux, mais on ne savait toujours pas qui ce qu'avait donné les coups de couteau. Il s'est mis à pleurer. Il a dit que lui, il n'avait pas donné les coups de couteau à mon père. Et alors j'ai appris que mon père devait de l'argent à l'autre, quelque chose qu'on n'avait jamais su. Et que, bon, il m'a tout expliqué en détail, comment ça s'est passé la nuit, tout. J'ai tout su en détail.
Vous l'avez cru ?
Mais je vais vous dire, sérieusement, oui, je l'ai cru. Sincèrement, je l'ai cru parce que il avait vraiment l'air sincère. Bon, il m'a dit, je fais tout ça, c'est pas pour moi sortir en prison, parce que quand même, je vais sortir, il me dit. Mais je fais tout ça, c'est parce que j'ai perdu ma maman, et je sais ce que c'est d'avoir perdu son père. Je pense qu'il m'a dit la vérité.
Cette vérité, vous ne l'aviez pas eue après le procès ?
Non, je ne l'avais pas eue.
Et donc c'est 13 ans plus tard ?
13 ans plus tard, j'ai su la vérité, oui.
C'est tard ?
Oui. C'est tard, ouais. On aurait voulu savoir quoi avant, parce que, bon, je sais que mon père n'était pas un ange, mais il ne devait pas mourir de cette façon-là.
Après la médiation, est-ce que vous avez parlé plus facilement du meurtre de votre père, autour de vous, avec vos proches ? Est-ce que ça a libéré un peu la parole ?
Oui, avec mes enfants, avec mes deux fils. Et mes deux fils disaient, je ne comprends pas comment est-ce que tu sais parler avec lui, que bon, j'ai été dans la pièce avec lui. Mes enfants ne comprenaient pas, et ma femme non plus.
Vous ne regrettez pas cette rencontre ?
Non, je ne la regrette pas. Et quand on m'a dit qu'il allait avoir du travail, qu'il allait être libéré, ben, s'il a l'occasion de refaire sa vie et tout ça, enfin, du travail, trouver du travail, tout ça, ben, non, je ne la regrette pas.
Oui, donc je me trouve dans la prison de Bruges actuellement, en attendant le transfert pour retourner sur Mons, au Tournai.
Et donc, qu'est-ce qui vous a amené dans cette démarche de médiation avec le fils de la victime?
Moi, ce que je voulais, c'était que la famille de la victime soit au courant de faits comme il s'était passé, quoi. En fait, pour qu'il puisse enfin faire le deuil, mettre une image sur l'histoire, quoi. C'était du bonheur de voir cette personne qui, au départ, avait l'air froid, il était sombre, il était... Et puis là, bon, c'était un truc, c'était assez émouvant, quoi. Et puis, enfin, bon, ça s'est terminé par poignée de main, sourire, vous voyez ce que je veux dire. C'était assez fort, quoi. Enfin, assez fort. L'histoire était quand même assez violente, quoi, le jour des faits, quoi.
Vous êtes rentré dans les détails de ces moments-là?
Mais disons qu'il y a certains détails qu'à la limite, il ne faudrait pas mieux... Faut pas trop les choquer non plus, quoi. Parce que bon...
Vous en êtes sorti comment, de cette rencontre?
Ben, je m'en suis sorti à la limite soulagé aussi. Ouais, soulagé aussi, quoi. Parce que c'était un poids qui m'était dessus depuis 13 ans. Et que j'avais envie, je voulais qu'il sache ce qui s'était passé.
À l'image de ces deux hommes, des centaines d'auteurs et de victimes entrent en contact chaque année en Belgique et vont parfois jusqu'à se rencontrer.
Nathalie Argo, à l'appareil du service médiante. Donc le procureur du roi vous a donné nos coordonnées, c'est ça, pour faire une médiation.
Et c'est en 1998 que le projet est né. Une poignée d'universitaires et d'associatifs militent alors pour que la médiation ne se limite plus aux délits mineurs. L'idée est d'offrir aux auteurs et victimes des crimes les plus graves la possibilité de communiquer, de discuter, et cela à n'importe quel moment de la procédure judiciaire, avant le jugement, juste après ou des années plus tard.
Donc quand vous avez eu le jugement là, le 10 mars, c'était coups et blessures volontaires sur qui? Ah, sur votre compagne. Donc ce serait quand même une médiation par rapport à votre compagne.
Approuvé par le ministère de la Justice, le système se met en place à titre expérimental dans certaines villes du pays. Puis en 2005, cette médiation d'un genre nouveau est inscrite dans la loi belge. Quel que soit le degré de gravité de l'affaire, victimes et auteurs doivent désormais y avoir accès s'ils le désirent. Deux associations sont agréées par le ministère pour mener à bien l'ensemble de ces médiations. L'une sur la partie néerlandophone du territoire belge et l'autre, Médiante, sur la partie francophone. Antonio Buonatesta est le coordinateur de Médiante.
Ce que l'on propose et qui est facilement compréhensible par rapport aux justiciables, c'est de répondre à un besoin auquel finalement la justice ne répond pas tout à fait. La justice s'occupe prioritairement d'essayer de voir comment garantir une procédure équitable pour l'auteur, établir sa culpabilité, prendre les dispositions sur le plan sanctionnel, la condamnation la plus juste possible. Et la victime, elle est entendue essentiellement comme témoin et elle est prise en compte de manière très limitée pour évaluer ses dommages. Et l'expérience a montré que les attentes des victimes vont au-delà d'une simple réparation financière, mais les préjudices subis sur le plan personnel génèrent toute une série de préoccupations, d'angoisses, de questions auxquelles la procédure classique ne répond pas. L'idée n'est pas de revenir à une justice privée où les gens s'arrangent entre eux, mais de compléter les grands principes de droit de la procédure pénale classique par une plus grande ouverture, une plus grande possibilité de dialogue entre l'auteur des faits et la victime. Je donnerai un exemple concret. Un cambriolage dans une maison, un vol à main armée. Ben, c'est clair qu'on peut imaginer que l'auteur puisse être poursuivi, condamné. Et à côté de ça, la victime peut revendiquer toute une série de réparations en termes de dommages financiers, intervention d'une assurance, etc. Mais elle peut rester avec l'angoisse de la raison pour laquelle on s'est introduit dans son domicile, l'angoisse générée par des hommes cagoulés dont elle ne connaît pas le visage, des questions qu'elle se pose sur leurs intentions. Ils ont été incarcérés, mais ils vont peut-être être libérés bientôt. Comment y aura-t-il des représailles ou pas ? Toute une série de questions auxquelles notre service permet de répondre, simplement parce qu'il est en contact, il peut établir ce contact entre l'auteur et la victime. Et aussi, ce qui leur fait beaucoup de bien aussi, c'est de pouvoir leur exprimer la souffrance qu'elles ont subie.
Chez Médiante, une quinzaine de médiateurs établissent ce contact auteur-victime. Chaque affaire est attribuée à un médiateur qui gère ses dossiers du début à la fin. Certains jonglent avec une dizaine de procédures sur une même période.
J'ai eu une médiation en 2007 qui a donné lieu à un accord d'indemnisation à l'époque.
En 10 ans, plus de 2000 médiations ont été menées à bien par Médiante. Il s'agit le plus souvent d'un dialogue indirect entre l'auteur et la victime par l'intermédiaire du médiateur. Il arrive aussi que le dialogue soit direct. Environ un tiers des médiations débouchent sur une rencontre.
Et donc il a commencé à faire une provision sur le compte de l'avocat de la victime pour s'avancer, quoi.
Et lorsqu'ils ne sont pas à l'extérieur, en entretien avec une victime ou en prison avec un détenu, les médiateurs passent une bonne partie de leur temps au téléphone à enregistrer des demandes de médiation. Les coordonnées de Médiante figurent depuis le début de l'année sur toutes les convocations au tribunal et l'information est en principe relayée dans toutes les prisons.
Voilà, c'est Catherine Jacquemin qui est médiatrice à Bruxelles, médiatrice à l'antenne de Bruxelles. Et voilà, Catherine est médiatrice à Médiante depuis près de 8 ans. C'est une des premières médiatrices engagées dans le service.
Bienvenue.
Donc, qu'est-ce que vous avez dans les mains ?
On a une longue liste d'attente. On a un petit carnet dans lequel on note toutes les demandes qui arrivent. Donc on voit qui a demandé la médiation, le nom de l'auteur de la victime, qui a envoyé le dossier, qui l'a pris en charge, ou s'il n'est pas pris en charge, c'est mentionné. Et alors vous voyez que la demande la plus ancienne date du mois de février. On n'est pas spécialement content de ça. Et voilà, on essaye de les prendre un petit peu... en restant raisonnable, mais voilà, c'est un peu problématique pour le moment. Voilà. Alors, une fois que la demande est faite, on rencontre en général la personne qui fait la demande pour creuser bien sa demande et vérifier que c'est bien la médiation qu'il lui faut. Et alors, on écrit à l'autre partie pour lui parler de la possibilité de médiation. Et donc là, c'est une phase assez délicate parce qu'il faut que la personne perçoive qu'on est neutre. Il faut la convaincre en tout cas qu'on est à son écoute et qu'on se met à sa disposition, qu'on est prêt à entendre ses attentes, à les travailler.
Alors lorsque une victime veut entamer un processus de médiation ou lorsqu'un auteur veut entamer un processus de médiation, en général l'autre partie accepte ou c'est très partagé, toutes les demandes ne sont pas satisfaites ?
Il y a plus de personnes qui acceptent que de personnes qui refusent, au moins dans un premier temps, quitte à arrêter un peu plus tard parce qu'elles n'y trouvent pas leur compte.
Et là ensuite, donc, quand il y a accord, on rentre dans le vif de la médiation, vous rencontrez alternativement l'un et l'autre, c'est ça ?
Dans un premier temps, on fait un petit peu la navette, on essaye d'affiner un petit peu le terrain de la médiation et l'espace de communication possible. On essaye de creuser pour trouver ce sur quoi la médiation va pouvoir porter et ce sur quoi les personnes vont pouvoir discuter pour peut-être arriver à un accord. Ça met un certain temps parce qu'il faut que les personnes réfléchissent à leurs attentes. Les personnes n'ont pas toujours réfléchi à ce qu'elles attendent avant de nous rencontrer, donc ça prend parfois du temps de creuser ça. Ça se construit...
Et alors cette phase de construction, justement, elle dure à peu près combien de temps ? J'imagine que c'est très aléatoire, mais ça peut durer très longtemps ?
Ah oui, ça peut durer quelques jours, et ça peut durer des mois ou des années. Enfin, il y a des médiations qui sont étalées sur des années, et des médiations qui ont duré un mois en tout. Et c'est pas lié à la gravité des faits, parce que parfois les personnes ont tellement d'attentes de se rencontrer qu'elles ne peuvent pas supporter qu'on leur dise qu'il va falloir attendre un mois. Donc on court un petit peu de l'un à l'autre parce qu'il y a une urgence, mais c'est dans des situations un peu rares.
Ensuite, après cette phase de mûrissement des attentes de l'un et l'autre, il y a éventuellement une rencontre.
Oui. C'est quelque chose qui devient de plus en plus évident parce qu'on se rend compte, soit parce qu'on se rend compte que ça va être vraiment difficile en continuant à faire la navette, qu'il faut à un moment qu'on se mette tous en même temps autour de la même table et discuter en direct parce que c'est trop compliqué, il y a trop d'aspects, soit parce que c'était ça que les gens attendaient. Les gens attendaient de se voir, de se parler, de se serrer la main, de se toucher, de sentir l'autre en présence.
Le toucher, ça fait partie de...
C'est pas quelque chose qu'on encourage, c'est-à-dire en général on le déconseille même en entrant dans la pièce, mais on ne dit rien pour la fin et donc parfois les gens ne peuvent pas résister, et même des gens qui avaient pas mal d'animosité en entrant ne peuvent pas résister à la tentation de serrer la main. Parfois c'est un réflexe et donc on essaie de travailler ça avec les gens pour qu'ils n'aillent pas serrer la main et puis le regretter après, donc on le prépare ça aussi avec eux. Alors la rencontre, ce n'est pas quelque chose qu'on a comme objectif de départ, mais c'est vrai qu'une médiation qui a abouti à une rencontre avec parfois des engagements qui sont pris, ça permet à tout le monde de fermer la porte au médiateur aussi.
Parce que c'est ça, c'est fermer la porte, le but.
Tourner la page, quoi, de passer à autre chose. Pour les parties, c'est des choses que les gens disent souvent, fermer le livre, c'est-à-dire ce sont des histoires qui n'étaient pas refermées. Et souvent, les personnes nous disent « Voilà, maintenant, je peux vraiment passer à autre chose. »
Bonjour, voilà, donc je suis incarcéré à la prison de Namur depuis 15 ans. Et c'est ici en 2002 où j'ai fait mes premières démarches avec le service médiant, quand j'ai entendu parler de ce service-là. En fait, les informations passent de bouche à oreille ici en prison. Et le jour où je l'ai entendu, j'ai hésité. C'est vrai que je ne savais pas au départ que c'était confidentiel. Je pensais que le service médiant faisait partie du ministère de la Justice, etc. Et que les entretiens étaient retouchés et que c'était dans le dossier. Donc, mais non, quand j'ai appris que c'était confidentiel et que c'était d'ordre privé, donc, on est un peu plus soulagés parce que nous savons que ça restera dans le bureau, que ça ne sortira pas plus loin. Donc c'est plus facile de s'exprimer aussi. C'est plus facile de s'exprimer. Voilà. Mon souhait, c'était justement d'essayer d'avoir un contact avec les victimes, parce que c'est vrai qu'au début, lors du procès, j'ai été quelqu'un de très arrogant. J'ai nié les faits, donc à aucun moment j'ai regretté quoi que ce soit. Et avec le temps, je me suis aperçu que ce que j'ai fait, j'aurais pas voulu que ça arrive à ma famille ou à qui que ce soit de proche. Et je me suis posé la question, comment j'aurais réagi si ça serait arrivé à quelqu'un de proche. Donc j'ai inversé les rôles. Ce qui n'est pas facile, parce que alors là, on devient un peu haineux, on devient... Et à l'heure actuelle, je peux dire que je ne regrette pas, parce que les démarches ont bien évolué. Il y a une victime, un couple, qui veut bien... participer à mes démarches, donc on m'avait demandé d'avoir une confrontation et de pouvoir s'expliquer, s'exprimer, surtout mes regrets, et demander mes excuses. C'est surtout ça qui me marque le plus, parce qu'à aucun moment j'ai fait mes excuses, ni au tribunal, ni au verdict, ni plus tard. Et pour moi c'était l'occasion, et je sais qu'ils sont prêts à me voir. Pas me voir, mais prêts à avoir un entretien avec les services médiants, que l'intermédiaire soit celui-ci.
Ils sont prêts à engager un dialogue indirect via un médiateur avec vous.
Oui, c'est bien ça. Donc, pour moi, c'est déjà... Je suis content quelque part parce que... Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que le comportement que j'avais eu il y a des années, c'était vraiment pas bien que c'était pas un comportement à voir, et je me suis aperçu. Et puis vous savez, après autant d'années, vous mûrissez en prison, même si vous êtes enfermé, vous êtes un être humain, donc vous mûrissez, vous apercevez que vous avez gâché votre passé, déçu votre entourage, vous avez Quelque part, vous êtes marqués, un peu comme les victimes qui ont les disques, qui sont marquées à vie. Eh bien, je crois que nous aussi, on est marqués à vie, quelque part, parce que la prison, vous ne pouvez pas l'oublier. Et quand vous avez passé autant d'années, je ne pense pas que vous pouvez mettre ça de côté et l'oublier.
Et ces regrets, vous pensez qu'ils vont être acceptés comment par là ou les victimes?
Là est toute ma crainte. C'est-à-dire que je me suis déjà posé cette question-là et je vous dis honnêtement, je ne pense pas trop, dans ce cas-là, je ne pense pas trop aux victimes. Je vais être égoïste, je pense à moi. Parce que c'est moi qui ai été arrogant, c'est moi qui ai été. Je n'ai pas eu un comportement convenable, etc. Donc je pense à un travail vis-à-vis de moi intérieurement. Donc j'ai envie vraiment de pouvoir m'exprimer et de pouvoir dire ce que la prison m'a appris, ce que j'ai pu prendre de positif dans cet enfermement.
Mais vous attendez qu'il vous pardonne?
Pardonner, c'est un trop joli mot, parce que c'est vrai que je les ai agressés et donc je les ai atteints dans leur chair. Mais si je devrais attendre quelque chose, j'espérerais qu'ils me disent, monsieur, ben voilà, ça nous a fait plaisir de vous entendre. Maintenant, vous payez votre dette. Maintenant, en espérant que quand vous sortiez, ben, vous ne recommencerez plus. Ça me soulagerait quelque part d'entendre cette phrase-là, parce que ça me motiverait et de me dire, ben voilà, même les victimes, quelque part, ils t'en veulent pas trop, le passé, mais voilà, maintenant c'est à toi d'avancer et de faire des efforts de plus retomber dans la délinquance, dans le vol.
Eh bien, bon courage.
Eh ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Okay.
Au revoir.
Je vous souhaite une bonne journée.
Au revoir.
Anne Lemoine, vous êtes criminologue et vous travaillez à l'Institut de criminologie à Bruxelles. Est-ce qu'il y a un lien entre médiation et récidive?
Alors, en Belgique, on n'a pas d'études sur l'impact de la médiation par rapport justement à la récidive, mais dans divers pays, on a tenté de montrer justement le lien entre médiation et récidive. Et non, il n'y a pas spécialement, finalement, un impact sur la récidive. Ce que les défenseurs de la justice restauratrice vont dire, c'est que bon, ok, il n'y a pas de lien finalement entre médiation ou justice réparatrice et récidive, mais par contre, il y a une satisfaction des parties qui est beaucoup plus importante. Donc ça, ce serait finalement un peu le cheval de bataille. L'argument, c'est que finalement, à toute chose égale par ailleurs, la satisfaction finalement des parties serait plus importante. Alors pour moi, étudier la récidive, le lien entre justice restauratrice et récidive, pose un problème important aussi en termes, je dirais, éthiques. C'est finalement se faire manger par les volontés politiques. Parce que nos politiques sont de plus en plus finalement focalisées sur la question de la récidive. Et donc finalement, c'est un peu jouer un jeu que peut-être les tenants de cette approche ne devraient pas jouer.
Les politiques de justice réparatrice et les médiations auteurs-victimes ont tout de suite fait l'unanimité en Belgique?
Il y a des questions qui se posent. Par exemple, on se pose la question de savoir si le juge gardera bien toujours sa capacité de décision. Il faut savoir qu'à l'origine, l'idée de la médiation, c'était vraiment de développer un processus alternatif au système pénal. C'est-à-dire, ça partait un peu du point de vue que finalement, dans nos sociétés, on règle tout. Beaucoup de choses par le biais du système juridique et qu'on dépossède les gens de leurs conflits et de leur capacité finalement à gérer des conflits. Que finalement le pénal est aussi quelque chose d'extrêmement stigmatisant qui réduit très fort la possibilité finalement pour les gens de donner un sens à ce qui leur arrive et réduit aussi les solutions qu'on peut apporter, puisque le pénal, finalement, ce qu'il fait essentiellement, c'est d'être répressif, hein, de pénaliser, donc par la peine de prison, qui est son instrument principal. Et donc, utiliser la médiation permettait justement de sortir de cette logique répressive et de redonner aux gens la capacité de gérer des conflits.
Donc finalement, quand il y a réticence, elles viennent souvent de l'autorité judiciaire qui se sent en quelque sorte dépossédée.
Oui, l'autorité judiciaire se sent dépossédée. Alors, je pense que là, derrière, il y a plusieurs choses. Il y a une rationalité dans laquelle ils sont habitués à fonctionner et qui fait que finalement, ils ne peuvent pas concevoir qu'on rende le conflit aux parties, aux gens. Et puis, il y a, ça c'est ce qu'on dira par exemple par rapport même aux avocats, etc. Il y a un peu l'idée qu'on leur prend leur boulot finalement. Qu'est-ce qu'ils vont faire après quand il y aura plus que des médiateurs et plus des juges? Alors, au niveau des avocats, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'avocats deviennent des médiateurs. Donc voilà, ils se reconvertissent. Ils sont en tout cas agréés en tant que médiateurs. Donc ça, c'est assez intéressant de voir les processus de reconversion d'une profession vers l'autre pour maintenir finalement une certaine légitimité et aussi certainement un boulot, quoi.
Alors ici, nous sommes dans un parloir individuel, un petit local où on peut rencontrer les détenus qui est destiné aux professionnels, donc aux entretiens des professionnels, les avocats, les services sociaux. La police aussi fait des interrogatoires ici. Et nous attendons un détenu pour un entretien de suivi de la médiation. Il souhaitait entamer une démarche de médiation concernant les faits qu'il avait commis. Il a cassé la vitre d'une voiture pour voler le sac à un feu rouge. Donc la conductrice était dans la voiture. Donc il souhaitait entamer une démarche de médiation vis-à-vis de cette personne.
Donc la médiation s'applique aussi pour des faits qui sont peut-être moins lourds.
Le côté lourd ou pas lourd, bon, évidemment, quand il y a eu un décès, c'est clair qu'on trouve ça lourd, mais les conséquences pour l'auteur, pour la victime, on ne peut pas les mesurer à leur place. Et donc peut-être que ça a l'air moins grave au départ, mais que ça a eu des conséquences très lourdes pour les personnes. Donc nous, on ne fait pas de différence selon les faits. Début mars, suite à votre demande, et donc j'ai écrit à la dame. Elle m'a répondu par mail pour me dire qu'elle ne souhaitait pas me rencontrer. Et elle m'a expliqué, mais elle a quand même un petit peu expliqué. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de médiation, qu'elle n'avait pas de préoccupation à votre égard, et que donc pour le moment elle ne souhaitait pas de démarche de médiation. Elle a dit que elle reprendrait contact avec nous si par la suite, bien sûr, il y avait besoin. Mais que pour le moment, elle n'en éprouvait pas le besoin. Alors par rapport à votre demande de départ, c'est un petit peu frustrant parce que...
Non, mais pour moi, c'est pas grave. C'est parce que moi, la victime, je croyais qu'elle était encore, je sais pas moi, sous le choc, mais oui. Qu'elle faisait encore des cauchemars ou
quoi.
Oui. Et bien, moi, je me suis dit que j'aurais fait appel à cette médiation pour... Pour lui enlever, je sais pas moi, des soucis, pour qu'elle se sente mieux, quoi, soulagée. C'est pour ça que je voulais prendre contact avec la victime.
Alors là, vous venez d'avoir une réponse négative pour le moment, en tout cas. Quelle est votre réaction?
Je sais pas vous dire. J'aurais pu en parler et tout, mais si elle veut pas en parler, c'est que... Peut-être que ça va remettre le couteau dans la plaie, c'est pour ça qu'elle veut pas en reparler. Donc je laisse faire, quoi.
Vous êtes quand même un peu déçu ou pas vraiment?
Non, je suis pas déçu.
Vous avez quand même fait la démarche, vous avez vu une médiatrice de l'association, vous avez quelque part exprimé certaines choses. C'est déjà une étape positive pour vous?
Ouais, c'est déjà quelque chose. Déjà juste le fait d'en parler, ça me soulage quand même un peu. Parce qu'avec un psychologue ou quoi, jamais j'aurais pu en parler ou quoi, j'aurais parlé peut-être d'autre chose, de mes problèmes à moi, mais pas de ça, quoi. Parce qu'en prison, c'est... on n'a jamais ça, quoi. Les gens qui parlent avec leurs victimes et tout, les gens s'en foutent, hein. Ils demandent que leur libération, puis voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre contact avec Médiante, avec le service de médiation? Vous l'avez su comment que ça existait?
J'avais fait une demande pour aller chez l'assistante sociale. Et puis, je lui parlais de mes cauchemars ou des victimes que j'avais fait, je sais plus. Et puis, elle m'a dit qu'il y avait un service pour ça et tout. Elle m'a dit que je devais envoyer un rapport à l'assistante médiation, c'est ça?
Ces cauchemars, vous en avez fait beaucoup sur une certaine période?
Ouais, c'était surtout au moment des faits, quoi. Au moment où j'avais volé la bonne femme en 2006, c'était à ce moment-là, jusqu'en 2007. Et de temps en temps encore, je fais des cauchemars. Mais c'est pas que des cauchemars de la bonne femme, hein, c'est des cauchemars que je vole ou bien je suis pas bien, quoi. Je me sens pas bien. Ma conscience, elle est pas tranquille dans mon rêve, dans mon cauchemar.
Merci beaucoup.
De rien. Et bonne chance.
Bonne chance à vous.
Merci, au revoir.
Merci.
Pour ce jeune détenu, l'incertitude et l'attente auront duré quelques mois. Jean-Pierre Malmandier, lui, a patienté 3 ans après l'enregistrement de sa demande de médiation. 3 ans de dialogue indirect avant de se retrouver dans la même pièce que l'un des assassins de sa fille, Corinne. Un meurtre qui a bouleversé la Belgique au début des années 90.
Macabre découverte à Lierneux, celle des cadavres des 2 jeunes gens disparus depuis le début de la cavale des toxicomanes de Verviers. Ils auront probablement été parmi leurs premières victimes. La peine de mort étant abolie, la cour d'assises du Luxembourg a condamné les 2 accusés à la peine la plus lourde, la réclusion à perpétuité, suivant cela le réquisitoire de l'avocat général. Les jurés n'ont pas été convaincus par les arguments des 2 accusés. Ils les ont reconnus coupables de tous les faits qui leur étaient reprochés. Un véritable soulagement pour les parents des victimes qui voient en ce verdict un signe d'espoir.
J'ai vécu ici quand même à Arlon un grand respect des victimes. Je dirais bien, il y a des choses qui progressent et qui permettent de penser qu'un jour, la victime aura la place qui lui revient dans le système pénal.
C'est à la suite de ce drame que Jean-Pierre Malmandier devient militant, crée une structure associative d'aide aux victimes, puis entre en politique en tant que sénateur avant de se faire élire député et d'appuyer fortement la mise en place du dispositif de médiation.
Donc le jugement a eu lieu, l'auteur est condamné. Malgré tout, bien souvent il reste toute une série de questions, même quand l'auteur a avoué. Les raisons fondamentales pour lesquelles il a agi de la façon dont il l'a fait, certains renseignements pratiques qu'on souhaiterait obtenir, surtout en tant que parent d'un enfant assassiné. Il y a aussi l'aspect de, pour du moins, moi je l'ai fortement ressenti, de ce besoin d'affronter l'assassin de son enfant, de lui montrer qu'on est resté debout, qu'il ne nous a pas détruits, que la valeur qu'on attribue à son enfant est toujours bien présente, et porter cette accusation les yeux dans les yeux. C'est un besoin que j'avais. J'ai rencontré l'auteur principal, qui jusqu'alors avait toujours nié sa participation à l'assassinat, et qui finalement m'a avoué que c'était bien lui. Celui qui avait tiré, celui qui avait mené l'épopée des 2 malfrats.
Dans le cadre de la médiation, il a avoué ?
Dans le cadre de la médiation, il a avoué. Disons que le fait qu'il ait avoué a aussi été un soulagement. Depuis le début de l'instruction, j'ai été intimement convaincu que c'était lui, l'auteur principal et le personnage le plus dangereux. Il l'a toujours nié, en disant même qu'il n'était pas présent sur les lieux du crime. Arriver à le faire avouer, non pas pour la société, mais pour moi-même, était important. C'est-à-dire que, en dépassant mes propres ressentiments, j'ai réussi à percer d'une certaine façon la carapace que lui-même s'était construite pour s'en préserver. Donc, et là, sur le plan humain même, ici, je parle avec énormément de recul, ça a tout son intérêt, pour la bonne raison que là, on quitte le comportement du monstre, de la sociale, de l'insensible, et qui arrive quand même là à, lui aussi, dépasser cette carapace. ça n'enlève rien à l'image qu'on a l'un de l'autre, mais ça permet de recroire d'une certaine façon à l'aspect humain dans chaque individu. Moi, je ne suis pas un démon vengeur qui souhaite absolument le détruire, et lui n'est pas uniquement cette espèce d'assassin fou qui vous a fait un tort énorme. Il y a là une rencontre sur un plan humain qui n'a rien à voir avec une forme de pardon, c'est une explication. Et je crois que c'est très important pour la victime de pouvoir rétablir ce niveau de relation pour trouver un certain apaisement.
Les personnes les plus sceptiques par rapport à ce processus disent que ça peut être considéré comme une deuxième souffrance pour la victime, infliger une deuxième souffrance pour la victime. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors écoutez, à moins d'être masochiste, l'initiative se prend au niveau de la victime. Même s'il y a une demande qui vient de l'auteur, la victime peut dire non, ça ne m'intéresse pas, donc ça n'a pas lieu. Et si ça a lieu, ben, c'est qu'il y a une demande de la part de la victime. Et les personnes qui disent c'est un deuxième traumatisme, etc., soit ce sont des victimes dont j'estime qu'elles n'ont pas eu le suivi psychologique nécessaire après le drame qui s'est produit, ou alors il s'agit de personnes qui, par principe politique, philosophique, sont contre. Et je soupçonne même une certaine tendance dans le monde politique de ne pas vouloir de cette solution parce que elle est un fameux contre-argument contre des positions extrêmes, type rétablissons la peine de mort, incarcération à vie, etc. Comment est-ce que je pourrais dire ça ? C'est recréer de l'humanité.
Sœur de Corinne, et elle a contacté notre service il y a quelques mois pour évaluer la possibilité d'un échange, d'une communication avec un des meurtriers de Corinne.
Donc d'abord, bonjour.
Bonjour.
Votre père a rencontré un premier auteur et vous vous apprêtez en fait à rencontrer le deuxième que votre père n'a pas rencontré.
Oui, c'est ça. Donc, le premier a fait des démarches pour rencontrer mon père, ça s'est fait. Moi, ici, c'est ce que j'ai toujours voulu, rencontrer cet autre auteur, parce que lors des faits, après une semaine de cavale, il s'est rendu, en fait, et a donné des bribes de vérité quand il s'est rendu. Donc, pour moi, cette personne-là a quelque chose de plus humain en lui que l'autre qui a continué à fuir jusqu'à ce qu'on l'attrape, quoi.
Donc pour vous, ça vous semble plus possible de rencontrer quelqu'un qui a une part d'humanité, selon vous, plus importante ?
C'est surtout que moi, j'ai envie d'avoir des réponses à mes questions et que j'ai envie d'avoir quelqu'un de sincère en face de moi. Ce deuxième auteur était très jeune quand c'est arrivé aussi, il n'avait que 21 ans. Et je me suis toujours posé la question, comme il s'est rendu, comme il a dit la vérité quand même au départ, en tout cas ce qu'il fallait pour qu'on retrouve les corps de ma sœur et de Marc. Je me suis toujours demandé si, s'il n'avait pas été embarqué dans le truc, si ça n'avait pas été pour lui aussi un calvaire en fait ce moment-là. J'en sais rien, peut-être que non, peut-être que oui, et c'est aussi une question à laquelle j'aimerais répondre, quoi.
Vous avez besoin de réponses à des questions qui concernent le soir en question, le soir du crime ?
Oui, parce que au niveau de l'enquête ou même au niveau des aveux de l'auteur que mon père a rencontré, c'est très vague, quoi. Ça a l'air un peu sorti quand je parle de détails, mais moi, c'est ça que j'ai besoin de savoir, comment elle a réagi, des faits plus concrets que vraiment, voilà, on est allé là, on les a descendus là, on a fait ça là. Pour moi, c'est complètement abstrait, ça ne répond à aucune des questions que je me pose, quoi. Dans la manière dont ma sœur a vécu le moment, quoi. Moi, ce que j'espère, c'est arrêter de me poser ces questions, parce que quand c'est arrivé, j'étais fort petite. Enfin, ça fait 15 ans que dans ma tête tourne Tatch et ma différent. Peut-être que j'y penserais moins si j'étais plus sûre ou si j'avais une idée plus nette de comment ça s'est passé, ouais.
Vous avez le sentiment que ça vous a empêché d'avancer ?
Oui, carrément. Carrément, à mon niveau, au niveau de ma famille aussi, que ce soit pour ma vie à moi. Oui, c'est clair, on a comme un nuage d'idées noires comme ça, toujours derrière nous. Il y a des périodes où ça va super bien. Puis il y a des périodes où ça va pas du tout, où il y a des sentiments de haine, de colère qui prennent vraiment possession de nous, et le simple quotidien est tout d'un coup beaucoup trop lourd à porter parce qu'on n'arrive pas à gérer ces sentiments-là, quoi. Donc oui, ça m'a empêché d'avancer énormément. Et qui sait, peut-être que ça aurait une influence sur toute ma vie, quoi, de justement dépasser cette angoisse à ce moment précis, quoi. Il y a un tas de choses que je pourrais faire que j'arrive pas à faire aujourd'hui. C'est pas vraiment concret, mais c'est quand je suis dans une mauvaise période, que j'ai des grosses angoisses comme ça, je peux faire aucune démarche, j'ai peur de tout, j'ai peur d'être en voiture, j'ai peur de marcher toute seule, j'ai peur de choses dont on devrait même pas avoir peur, quoi. Je me pose les questions que je me pose sur la vie sont tellement... Ouais, j'ai l'impression que tout peut basculer en deux secondes et j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre sans avoir super peur, quoi. Je vois des psys depuis que... Des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes depuis que c'est arrivé, donc depuis l'âge de 8 ans.
Mais, enfin, en tout cas, vous n'avez pas trouvé chez les psys ce que vous pensez pouvoir trouver avec la médiation.
Ouais, ça m'a certainement aidé à gérer parfois mes émotions, mais pas tout le temps, non. Non, c'est vrai que j'espère arriver quand même au bout de quelque chose, quoi, avec cette médiation. Mais c'est un peu l'inconnu pour moi.
Cathy Malmandier a finalement rencontré cet été le deuxième auteur du meurtre de sa sœur. Il a eu une attitude correcte selon elle, mais n'a pas répondu à toutes les questions qu'elle se pose sur le jour de l'assassinat. Cela dit, elle se dit satisfaite d'être allée au bout de la démarche et espère pouvoir enfin tourner la page plus de 15 ans après la mort de sa sœur. C'était « Victime-agresseur, l'étonnant dialogue », un reportage de Claire Chaudière, réalisé par Anne Lioreau, assisté d'Audrey Ripouille, mixage Philippe Bredin. Interception est désormais préparée chaque semaine par Lionel Thompson et Valérie Cantier. La semaine prochaine, nous découvrirons que la danse peut être un vecteur de mixité sociale. La Biennale de la danse à Lyon rapproche des habitants de quartiers très différents qui défileront ensemble dimanche prochain après des mois de préparation. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de 10h. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.